rencontre avec le gentil garçon à l'occasion de son exposition intitulée « La grande décomposition », présentée au lieu unique du 14 novembre 2008 au 25 janvier 2009. Dans cette interview, le gentil garçon aborde volontiers les questions métaphysiques, son émerveillement par rapport au réel, sa jouissance du temps présent et la notion de la conscience de soi. Mais il commence plus pragmatiquement par discuter la dimension in situ de ce projet, pensé comme un zootrope géant dans lequel le visiteur pénètre.
Pour cette installation, en fait, effectivement, ça aurait été autre part, j'aurais jamais eu cette idée-là. C'est vraiment l'espace tel qu'il est, qui a généré, même pas les formes, le projet tel qu'il est et l'idée de faire ça. C'est-à-dire avant qu'on me propose une expo ici, j'avais jamais eu l'idée de faire ça, en fait, de faire de m'approcher du dessin animé. Oui, c'est quelque chose auquel je suis sensible, donc je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais fait quelque chose en lien avec le dessin animé d'une façon ou d'une autre. Mais là, effectivement, quand Patricia m'a proposé l'expo, moi, je connaissais très bien le lieu pour être venu pour Ideal et Oblique Lunite. Et je me rappelais vraiment de ces colonnes qui ponctuaient, qui rythmaient l'espace. Et pour moi, c'est effectivement la seule chose qui est régulière dans cet espace. Parce qu'il n'y a pas un mur qui est droit, il y a un mur courbe, il n'y a pas un mur qui est pareil. On est très loin du white cube. Donc, la seule chose qui ponctuait l'espace de façon régulière, c'était ces colonnes. Donc, très vite, pour moi, ces colonnes, elles sont devenues hyper importantes. Je voulais pas les cacher, je pouvais pas masquer l'espace. Donc, il fallait en faire quelque chose quelque part. Et ça, d'emblée, m'a donné une idée de rythme comme ça, temporel, dans l'espace.
Comme des délimitations de séquences.
De séquences, voilà. J'ai tout de suite vu quelque chose qui serait répété dans l'espace, et donc qui dit répétition a un rapport au temps, et qui dit rapport au temps forcément dit un rapport peut-être aussi à l'animation, quoi. Et j'ai pensé en fait très vite aux zootropes, et notamment aux zootropes en volume qui avaient été faits. Les zootropes au départ c'était un ancêtre du dessin animé où on faisait des petits dessins sur des bandes de papier qu'on mettait dans un tube à fente, le tube tourne, et avec la persistance rétinienne, en regardant le dessin, on recrée l'animation. Et en fait, j'avais vu un zootrope au Pays de la Découverte à Paris, où il y avait un oiseau en volume qui battait des ailes, donc avec différentes positions de mouvement des ailes de l'oiseau. Donc au départ, c'était des objets souvent aussi utilisés pour la physiologie, pour étudier vraiment qu'est-ce qu'un mouvement, comment les os s'articulent, etc. Et donc ça existait déjà des zootropes en volume, mais de taille modeste, et puis surtout voilà, un seul élément isolé, sculptural, et qui est décomposé en mouvement. Donc l'idée, ça a été voilà, d'utiliser cette salle comme un zootrope géant dans lequel on pourrait pénétrer. Et donc très vite, d'avoir cette idée qu'autour de chaque poteau, en fait, serait matérialisée une séquence, enfin une étape d'une séquence animée, quoi. Donc, plus qu'une étape, un photogramme même carrément, on peut dire, une image arrêtée en volume. Et après la question, ça allait être, bah oui, ok, maintenant j'ai ce principe-là. Mais qu'est-ce que je réalise, quoi? Quel objet, quel motif, quel objet, quoi? Voilà, au début, je savais pas trop. Au début, c'était beaucoup plus simple que ça. C'est juste une sculpture par poteau. Et puis, je me suis dit, le problème, c'est qu'il y a aussi ce rapport entre, quand on va rentrer dans la salle, je voulais aussi que ça signifie quelque chose, cet ensemble sculptural. Qu'il ait un sens dans sa globalité, pas simplement qu'on le prend dans le détail autour de chaque poteau. Donc il fallait que l'environnement de tous ces éléments soit pas simplement perçu comme une décomposition, mais qu'il ait aussi un sens et une justification, enfin pour moi en tout cas, d'occuper un espace entier. Et l'idée du bureau est venue très vite, puisque le bureau, effectivement, c'est à la fois le meuble où il peut se passer des choses, il y a des formes qui peuvent apparaître, disparaître, etc. Et en même temps, si on met un alignement de bureau dans l'espace, on va recréer quelque part un plateau de travail, quoi, une usine, un plateau de travail. Enfin, ça va être proche de quelque chose qui existe, quoi, qu'on peut reconnaître, qu'on peut identifier. On arrive dans une salle avec plein de bureaux alignés. Ouais, bah oui, c'est comme si on était dans un bureau, une administration ou une usine, etc. Et donc il y a cette dimension, cette double. Toi, il y a le quand on va aller proche de chaque poteau sur chaque séquence, on va avoir un bureau isolé, mais en même temps l'ensemble des bureaux, pour moi, a aussi un sens par rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'on rentre dans un lieu de travail quelque part, de réflexion, de travail. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben voilà. Ça va être effectivement pour moi, je vais animer une espèce de bureau un peu fantasmé le bureau du créateur au sens large. Donc le bureau du créateur, pourquoi pas, bah, comme c'est moi qui vais réaliser cette chose, bah, utiliser simplement les motifs qui apparaissent dans mon travail, pas chercher plus loin que ça. C'est l'heure de l'évidence, bah, voilà, c'est un bureau de travail, c'est mon bureau de travail. Quelles sont les formes qui, que rétrospectivement je vois qui traversent un peu mes réalisations, et puis partir de ces formes et les faire émerger, disparaître, réapparaître, etc. à travers l'animation.
Si on prend les formes en question, donc il y a pour moi deux lignes évidentes dans tes formes. Une ligne qui va vers du ludique,
ouais.
et elles peuvent se retrouver, ces deux lignes, dans les mêmes formes. Ouais. Et une ligne qui va vers plutôt quelque chose de plus grave. Là, la référence à la vanité, à la mort, à l'os, etc. Ça revient beaucoup.
Ouais.
À qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et...
Bah, en fait, c'est exactement, c'est-à-dire que pour moi, c'est un peu le revers de la même médaille. En fait, ce qui me motive dans la création, dans la réalisation d'œuvres, dans le travail artistique et plastique, c'est finalement mon émerveillement par rapport au réel, par rapport au fait d'être, par rapport au fait d'exister. C'est des questions même métaphysiques, mais que je prends pas par ce biais-là. C'est-à-dire, quand je parle d'émerveillement, justement, c'est à double face, c'est-à-dire, c'est un questionnement, c'est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc, c'est aussi ces questions-là qui m'ont amené, avant de faire de l'art, à m'orienter vers l'astrophysique. Où j'ai fait des sciences, etc. Et finalement, c'est des questions qui me travaillaient, des questions comme ça essentielles, tout en sachant que c'est quelque part des apories, c'est des choses dont on n'aura jamais une réponse. Mmh. Donc plutôt que se poser ces questions à l'infini en sachant qu'on n'aura pas de réponse, l'idée, c'est aussi, c'est tellement fantastique finalement quand on y réfléchit, le fait d'être, ce qui nous entoure, etc., que ça devient quelque part, simplement par l'observation, que ça devient presque une jouissance, jouir du réel, quoi. Et mon travail, il est basé là-dessus, c'est-à-dire que quand pour moi, l'art, c'est un prétexte, et ça me permet de jouir de ce que je fabrique, quelque part. Et là, en l'occurrence, je me suis fabriqué un gros jouet, quoi. Un gros jouet, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, et maintenant, je fais des photos dedans, et ça va aboutir à une forme très légère qui va être un flipbook. Donc, il y a aussi cet ensemble de choses entre, effectivement, des choses très laborieuses, et puis des choses très légères, et puis aussi au niveau du sens, effectivement, des choses très ludiques et des choses plus graves. Mais pour moi, la vanité, je vois le côté positif, c'est-à-dire vanité, effectivement, toutes les choses, il y a l'impermanence du monde, des êtres, mais en même temps, c'est aussi une façon de dire, il faut profiter du présent. Le temps le plus important, c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est vraiment le présent. Et on peut comprendre aussi ces différentes stations au niveau du temps dans la salle comme autant d'états arrêtés, donc autant de présents, quoi. Chaque photogramme est un présent, à un moment donné, voilà, c'est un temps arrêté. Et quelque part, le lien avec la vanité, il se fait aussi dans ce sens-là, en tout cas pour moi. Et pour ce qui est de l'os, alors moi, l'os, j'ai pas du tout une vision morbide de l'os ou du squelette. Au contraire, je trouve que c'est un objet très beau, son propre squelette. C'est la chose la plus intime qu'on a. Vraiment, c'est le...
Donc, t'as fait déjà plusieurs pièces.
J'ai fait déjà plusieurs pièces autour de l'os. Qui part de ça. Et la première qui a été, où vraiment j'ai, enfin, en fait, c'est la deuxième quand j'y réfléchis bien, mais une importante en tout cas était l'homme de Mnémosyne, où je m'étais rendu compte que oui, cette chose la plus intime, la plus proche de soi, intérieure à soi, on la connaissait très mal. Et par exemple, je connais beaucoup de noms d'artistes, de musiciens, de films, etc. Je pourrais citer quelques acteurs, quelques réalisateurs, tout ça, de façon assez précise finalement, les artistes, les œuvres qu'ils ont réalisées. Je pourrais en faire une nomenclature, les citer de mémoire, etc. Par contre, mon propre squelette, je connais pas tous les autres de mon corps, pourtant il n'y en a pas tant que ça. Et se rendre compte qu'on connaît aussi mal son propre corps, finalement, ça m'a troublé, quoi. Je me suis dit, merde, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et j'ai l'impression de passer à côté d'une évidence. Et du coup, j'ai imaginé, donc l'homme des Mnémosynes, c'est un squelette qui est composé uniquement des os dont je me rappelle le nom et que je peux placer en fait sur la sculpture.
Moi j'étais déjà très admiratif parce que j'aurais été incapable.
Oui, mais quand on regarde bien, il y a quoi? Il y a fémur, il y a les côtes, les phalanges, c'est des mots très courants en fait. Il y a tous les mots un peu savants, à part 2-3 que je me rappelle, souvenir de sciences nat. ils sont plus là quoi, et ça fait un espèce de squelette lacunaire. Il manque beaucoup de choses et qui est comme sorti de ma mémoire en fait. Donc, ça s'appelle l'homme de Mnemosyne. Il est présenté comme pourrait être présenté un vestige archéologique sous une vitrine. Et c'est simplement une photographie à un moment donné de mon ignorance quelque part. Et cette idée de capitaliser son ignorance, moi, elle est aussi au sein de mon travail, dans le fait que j'aime savoir les choses, mais à un moment, je préfère pas trop savoir.
Parce que cette non-maîtrise peut apporter de la créativité.
Ben en fait, à la place du savoir, il y a l'imagination qui vient, une pratique plus personnelle, plus empirique, qui vient se superposer à la connaissance, au savoir, à la maîtrise. Quoi. Et c'est cette articulation-là entre ce que je sais faire, ce que je peux faire, et ce que je sais pas faire ou ce que je pense ne pas savoir faire qui va être une motivation pour mon travail. Et c'est pour ça que là aussi la plupart des travaux dans lesquels je me lance sont quelque part des challenges. Je le vois comme ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me lance un projet qui paraît infaisable en le disant, et après il faut trouver une solution pour le faire quoi. Là, du coup, pour réaliser le tout, j'étais obligé de mathématiser complètement le lieu. C'est-à-dire que, forcément, j'étais obligé d'avoir une démarche pragmatique, en fait, pour pouvoir réaliser l'œuvre. De m'imposer des procédés très rigoureux, puisque comme tout est répété 21 fois, puisqu'il y a 21 colonnes que j'utilise, puisqu'il y en a 3 que je ne peux pas utiliser qui sont trop proches des murs. Donc, toutes les étapes de fabrication de chaque objet, de positionnement des objets, de la réalisation même, sont répétés 21 fois, un petit peu différents puisqu'il y a des variations dans les formes. Donc il fallait quelque part tailoriser un petit peu la façon de procéder. Vraiment c'est devenu une usine en fait, et l'atelier est devenu vraiment une usine, un endroit où on produit les choses de façon assez répétitive. Donc j'avais 2 assistants, Owen Kohn et Jean Pio, qui sont deux amis artistes coréens qui ont fait une école de sculpture en Corée, donc très académique. Après, Owen est venu en France, il a fait la Villa Arson. Et Pio vient juste d'arriver, il est arrivé il y a 6 mois en France, il veut faire les Beaux-Arts en France. Et en fait, eux, ils ont un savoir-faire que moi, je n'ai pas, de sculpteur académique. Moi, j'ai appris aussi, parce que j'ai fait une école à appliquer après les maths, donc j'ai appris à sculpter, c'était une école très académique aussi. Donc j'ai effectivement aussi un savoir-faire, mais ils sont beaucoup plus efficaces que moi, beaucoup plus, enfin ils ont une maîtrise vraiment. Et du coup, ça n'aurait pas pu se faire, en tout cas pour certaines sculptures, notamment les bonhommes de neige avec les crânes. C'est, au point de vue sculptural, c'était les plus complexes. Sans leur aide, quoi, c'est sûr, j'aurais mis beaucoup plus de temps, ça, j'aurais été beaucoup moins efficace et j'aurais pas été sûr d'avoir le même résultat. Et donc du coup, on a travaillé à 3 pour les réaliser.
Par vidéoprojection.
Alors j'ai d'abord tout modélisé les bonhommes de neige sur SketchUp, donc il y a un logiciel de modélisation 3D simplifié. Et après, donc j'ai tiré des transparents avec chaque bonhomme de neige de face, de profil. On a tout projeté sur des blocs de polystyrène que j'avais déjà fait prédécouper en volume les plus proches de ce qu'allaient être les sculptures pour gagner du temps. Et après, on a procédé au fil chaud, on a dégrossi la matière au fil chaud en fonction de ses projections, des silhouettes simplement. Et une fois qu'on avait les sculptures dégrossies, on les a retravaillées au couteau aiguisé, quoi. Donc, pour les os, c'est pareil. Pour c'est tout le travail de polystyrène très très manuel. Et aussi au niveau formel, quand on regarde, en fait, il y a ce travail autour des bonhommes de neige qui est assez minutieux, avec donc très réaliste. point de vue du crâne, on retrouve vraiment les os, etc. On m'a poussé quand même assez loin le réalisme. Et à côté de ça, il y a des objets faits de façon très rapide, très enfantine, très schématisée, comme l'avion, comme l'oiseau.
On a l'impression plutôt de voir des maquettes.
Des maquettes ou un croquis. Par exemple, la cage, pour le coup, on dirait vraiment un croquis au crayon, quoi. C'est du fil de fer tordu. Enfin, il y a quelque chose qui a été fait aussi très rapidement. Et je vous laisse contraste, en fait, entre des choses très brutes et puis des choses plus raffinées au niveau de la réalisation. Puisque aussi, comme c'est le bureau du créateur, c'est mon bureau, et quelque part, ces deux aspects de mise en forme du fer m'intéressent, quoi. Aller dans les choses très brutes, grotesques, et aller dans des choses très raffinées, très précises, en faisant appel à des savoir-faire très précis. C'est des choses qui reviennent dans mon travail. En fait, ces deux directions. En fonction des projets, des fois, il m'est arrivé à, donc, justement, travailler de façon très, très rigoureuse avec des gens qui ont des savoir-faire, ou même moi, de façon très rigoureuse, ou bien au contraire d'aller dans des directions plus brutes, plus grotesques, enfin un travail vraiment plus radical, rapide sur la matière. Et il y a peut-être une pièce aussi qui est assez ancienne qui regroupe un peu ces deux façons de voir les choses. C'est l'autosculpture, qui est en fait une sculpture qui est composée de mon poids en pâte à modeler. Donc là, c'est un geste sculptural très simple, très radical, où simplement je me fournis en pâte à modeler, je fournis mon poids en pâte à modeler, j'en fais un tas, c'est la pâte à modeler rouge. Et par contre, pour lui, quelque part, lui donner vie, j'ai fait réaliser par un artisan mes yeux, par un prothésiste oculaire, en fait, qui a un travail pour les artisans. Donc il a photographié mes yeux avec un appareil spécial, il a trouvé exactement la teinte, il a fait vraiment un travail comme si je lui demandais des prothèses. Et du coup, ça a été un travail d'orfèvre assez long à faire. Et l'œuvre maintenant, c'est simplement ce tas de pâte à modeler avec les deux yeux figés dedans, comme on dirait du coup un personnage entre The Thing de Carpenter et puis Barbapapa, quoi. Enfin, et il y a un choc là, visuel, entre un objet qui est très raffiné, très précis, et puis une espèce de tas informe de matière, un truc grotesque,
plus brute, ouais.
Très brute. Et voilà, c'est des choses qui, voilà, ces rapports là m'intéressent aussi. Cette idée de jouir de son propre travail, ça, c'est pour moi, c'est très important. Ça ne veut pas dire que je prends plaisir à faire toutes les étapes, parce que des fois, mes boulots sont très contraignants au niveau de leur mise en forme. Là, par exemple, pour le coup, c'était vraiment l'usine, c'était contraignant, quoi. Mais n'empêche que je prends plaisir à... Pour moi, il y a un moment donné où il y a une jouissance dans le travail. Et c'est ça que je recherche. Et là, en l'occurrence, d'avoir réalisé ce plateau de sculpture, maintenant, ça devient, comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient une espèce d'objet avec lequel je peux, en quelque sorte, m'amuser. Mais m'amuser au sens où, pour moi, c'est important. L'amusement, c'est pas quelque chose de trivial ou de... C'est justement, comme tu disais, cette faculté qu'ont les enfants à faire du moindre objet un monde complet, avec ses règles, avec son autonomie, etc. Et du coup, je crée une espèce d'objet autonome dans lequel je peux activer, désactiver des procédés. Enfin, en tout cas pour cette pièce-là, c'est très très visible et très très efficient, puisque effectivement, maintenant que j'ai créé ce plateau, je viens faire des photos dedans, change les prises de vue, etc. Ça devient un objet malléable que je peux travailler, que je pourrais travailler très longtemps, en fait, si je voulais. C'est pas le cas, mais du coup, qui devient un nouvel objet d'étude quelque part, quoi, qui est fini, enfin une étape est finie, et là, je suis à nouveau dans une incertitude par rapport à ce que la forme va vraiment devenir, puisque en gros, je mets, plutôt que prédéfinir une forme, la plupart de mes travaux sont issus d'un processus, d'un procédé, d'un process créatif que je mets en route, et qui, par un système de dominos, quelque part, va aboutir à une forme. dont l'aspect définitif n'est pas vraiment préconçu au point de vue de son design, de son style, etc. Mais ça va être vraiment le procédé que j'aurai mis en route qui va aboutir à une forme qui va m'échapper à un moment donné. Enfin, c'est ce que je recherche en tout cas. Et
d'où la diversité formelle.
D'où la diversité des propositions aussi. Puisque l'idée aussi par rapport à mon travail, et c'est pour ça que pour moi je peux pas, enfin en tout cas je parle pas de stratégie, c'est que j'ai envie de faire les choses toujours, ça je le répète parce que pour moi c'est vraiment important et je me suis quelque part à un moment peut-être pas imposé, mais c'est de faire les choses toujours pour la première et dernière fois, cette idée de fraîcheur, cette idée que je vais être déconcerté par mon propre travail et que ça ne devienne pas une routine. En fait, je suis très sensible aux gens, aux artistes qui ont un travail très éclectique, par exemple Kippenberger, j'avais vu plusieurs œuvres de lui et sans savoir que c'est la même personne qu'ils avaient fait, et quand j'ai découvert que c'est la même personne, j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui m'a vachement touché. Et la plupart des artistes auxquels je suis sensible, enfin pas tous mais la plupart, ont cette dimension, cet éclectisme en fait dans la proposition. En fait, je cherche pas un langage. Je sais que beaucoup de le mot langage en art, c'est oui, un langage artistique, un langage plastique. Moi, l'idée de langage m'intéresse finalement pas beaucoup. C'est en fait, je préfère quelqu'un qui parle pas très bien plusieurs langues, mais pas très bien, c'est-à-dire qui arrive à se débrouiller avec des simples, arrive à communiquer sans maîtriser les langues, plutôt que quelqu'un qui va aller très loin dans une seule langue. Et je suis plus sensible à ça, en fait, peut-être. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi.
Et puis, dans ce que j'ai pu lire, tu vas un cran au-dessus, à savoir que tu condamnes ouvertement les gens qui labellisent leur travail en reproduisant, en dupliquant des formes
ultra reconnaissables. En fait, moi, ce qui est quelque chose, quand la forme devient signature, quand c'est simplement qu'au bout d'un moment, alors ça c'est aussi vachement lié au système du marché, au système qui fausse un peu le process artistique, qui le déforme un petit peu comme ça, où au bout d'un moment on va dire que la forme est soumise à une espèce de signature, et il y a certains artistes qui, de façon consciente ou malgré eux, ou parce que ça devient une facilité ou j'en sais rien, au bout d'un moment se contentent, c'est comme s'ils s'accaparaient une partie du monde et qu'ils y accolaient une signature, quoi. Pour faire schématique, on va dire, mais là je vais peut-être trop schématique, si je dis bah voilà, Buren il fait des rayures. C'est au-delà de ça, parce que Buren, il a un lien très important à l'Institut, etc. Bon, mais c'est peut-être pas un très bon exemple. Mais il y a quand même des formes, des fois, qui reviennent, où c'est simplement, on sent que la forme devient signature, et moi, ça m'intéresse pas, en fait, en tout cas par rapport à ma propre pratique, quoi. Et aussi... voilà, je veux pas être soumis à la forme, mais je veux soumettre la forme, en fait. Soumettre la forme à mon désir de création. Je veux pas être soumis à la forme, en fait. Je veux pas
être contraint par
le formaliste, en fait. Le formalisme m'emmerde un petit peu, même beaucoup, quoi. Et même si je suis obligé de faire des choix plastiques, esthétiques, de matériaux, pour moi, c'est pas une finalité dans mon travail, quoi. La finalité de mon travail, c'est simplement de me mettre dans des conditions où je vais découvrir des choses, découvrir des techniques, rencontrer des gens. Enfin, c'est un prétexte, quoi. C'est vraiment, je le vois vraiment comme un prétexte. C'est qu'il y a une aventure, à un moment donné. C'est très égoïste, mais pour moi, l'intérêt de mon travail, c'est pas la forme finie. C'est vraiment toute la trajectoire qui a permis d'aboutir à la forme, quoi. Après, une fois qu'elle est réalisée, ça ne m'intéresse plus, quoi. Ça, je sais, ça a toujours été le cas. Et c'est de me lancer dans des projets qui, je sais, vont m'imposer à aller rencontrer des gens, à faire des démarches, à me confronter à des techniques que je ne connais pas. Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est voilà, simplement.
Tu n'as jamais sous-traité complètement tes projets?
Non, alors voilà. Je garde toujours une dimension. Ce qui m'intéresse évidemment, donc du coup, c'est de garder toujours le plus possible une grande part d'étapes que je puisse réaliser moi-même.
exposition de d'idées encore en germe.
Oui, c'était un peu ça. C'était figurer un petit peu ce mouvement de la pensée. Donc, à la fois, en fait, ces motifs font référence effectivement à mon travail. Donc, c'est des motifs qui traversent mon corpus d'œuvre, mais aussi font référence au dessin animé, aux comics, aux cartoons.
L'appropriation, elle est très facile aussi parce que ce sont des lieux communs.
Voilà, des lieux communs, ouais, c'est des stéréotypes, des imaginaires collectifs. L'ampoule comme symbole trivial de l'émergence d'une idée dans la bande dessinée, la pomme de Newton, c'est des formes très simples. La chaise qui se détruit comme une peau de chagrin, un petit peu.
La main, en fait, c'est la main d'un.
Étienne Jules Marais.
Avec la chronophotographie, voilà, il a décomposé un mouvement. Voilà.
Alors lui, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qui l'intéressait, il croyait pas du tout au cinéma. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'image arrêtée. Pour lui, le cinéma, ça n'avait aucun avenir. Ce qui était intéressant dans la chronophotographie, c'est au contraire que ça arrêtait le mouvement, ça permettait de l'analyser au point de vue physiologique. Et donc, toutes ces séries, en fait, sont des séries de photos qu'après, on a mis bout à bout pour faire des images animées, mais... lui, il les présentait en tant que série de photos. Quoi. Et ça lui permettait vraiment de décomposer le mouvement et de comprendre quelle était la démarche du cheval, pourquoi un chat se redressait quand il tombait, etc. Et là, oui, j'ai décidé, je voulais faire un clin d'œil à l'ancêtre du cinéma. Et en même temps, j'ai choisi ces photogrammes très simples d'une main, parce que le fait de faire ce geste d'ouvrir et de fermer la main comme ça, pour moi, était très proche du moment de la conscience de soi, en fait. Quand on regarde sa main et quand on la fait bouger, c'est un geste pour moi qui me rappelle vraiment ça, un geste un peu justement caricatural, stéréotypé. Quand on a conscience d'être, on regarde ses mains, est-ce que ça va, voilà, on regarde, on fait bouger ses mains, c'est un geste très simple, archaïque, et du coup je voulais que ce soit ce geste là qui apparaisse ici, et en plus quand il sera projeté en grand, cette animation aussi dans la salle, il y aura cette main surdimensionnée, et c'est quelque part la main qui fait, la main qui réalise, mais c'est aussi une espèce de geste de passe magique comme ça, quoi. Enfin, il y a quelque chose de en même temps, c'est la main du chef d'orchestre, peut-être. Enfin,
voilà, il y a quelque chose de très autoritaire dans le
mouvement. Ouais, et il y a aussi quelque chose d'autoritaire, quelque chose qui
de divin, presque.
Ouais, voilà, il y a un truc comme ça. C'est un prétexte aussi, un moyen de faire le point aussi. Quels sont les motifs qui traversent mon travail, les motifs formels, quoi, l'ampoule, l'os, le bonhomme de neige. Après, derrière, par exemple, si je vais plus loin, je sais que mon prochain projet là que je fais pour la Force de l'art, c'est la neige. Le bonhomme de neige va réapparaître. Et la neige m'intéresse parce que elle a quelque chose une dualité, en fait. La neige, c'est quelque chose qui, vu comme ça, à une certaine échelle, est quelque chose de complètement informe. C'est une matière qui n'a pas de qui est presque intangible, quoi, qui recouvre, qui déforme les objets qu'elle recouvre, qui unifie tout, qui a pas de singularité, qui est une espèce de nappe blanche comme ça, indescriptible. Et en fait, quand on regarde à une certaine échelle, quand on regarde les cristaux de neige, au contraire, c'est un monde complètement opposé. C'est un monde ultra, ultra précis, ultra défini, avec cette notion d'unicité, chaque flocon est différent. Enfin, il y a une contradiction entre, dans la façon dont, si on regarde à une certaine échelle, à une échelle plus précise, on change complètement d'univers et on a quelque chose de comme une rupture, quoi, entre ces deux univers, et ça me fascine, quoi.
C'est aussi une histoire de sculpture. Hein,
c'est une histoire de sculpture.
Voilà,
quoi, voilà, ouais.
Une forme extrêmement structurée et rigide.
Et puis un truc molle. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, le projet que je fais pour la Force de l'art joue sur ces deux articulations. En fait, c'est un projet architectural. C'est entre l'architecture et la sculpture. Et du coup, il y aura, si j'arrive à le mettre en place comme je veux, il y aura une dimension très organique et une dimension très cristalline. Comme la neige, en fait. Donc c'est deux sculptures imbriquées, une qui est la chute de l'autre, qui constituait des éléments de chute de l'autre, et qui reprend peut-être pas en parler là, mais enfin bon, qui est basée sur la structure du flocon de neige, quoi.
Ça, c'est prévu pour quand ?
Ça, c'est en avril 2009. Donc là, en fait, je suis en train de travailler dessus depuis un moment, quoi. Donc tout est fait, j'ai plus qu'il faut que je trouve les sous. J'ai pas encore tout le budget pour pouvoir le faire comme je veux, donc là je suis en recherche de fonds quoi. Mais sinon, dès qu'il y a le feu vert pour l'argent, ça va. J'ai trouvé toutes les solutions, les partenaires techniques pour réaliser le truc.
Fin de cet entretien sonore avec le gentil garçon. Toutes les informations sur l'exposition La Grande Décomposition sur le site du lieu unique www.lelieuunique.com. Un entretien réalisé par Eva Proutot le 31 octobre 2008.